Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Bonjour. Alors après le thé, le café, le chocolat, en un mot les boissons chaudes, après les alcools, vins et autres spiritueux, notre troisième preuve par Z consacrée aux boissons s'intéressera cette semaine aux filtres et aux poisons. Et c'est la chanteuse Juliette qui nous présente tout d'abord sa collection personnelle. Cigu, Cantharide, Cura, Ramanite, Opium et Datura, mais aussi Aquatofana et Realgar. Vous connaissez le Realgar? Mais si, on en trouve au fond des grottes, en Roumanie. C'est une espèce minérale composée de sulfure d'arsenic. J'adore.
J'éprouve un poison plus raffiné, plus rare que venin de scorpion et liqueur de curare. La ciguë de Socrate, le datura d'Hamlet, la spic de Cléopâtre, l'eau d'un homme de Juliette, le poison des esthètes, l'opium de Baudelaire, le pavot des poètes au milieu des éthers, sans rien à compter de ce filtre violent, silencieux et damné, mon amour inquiétant. Le Realgar rouge de l'Aquatofana, imposant à qui bouge la raideur du trépas. La cantharide chère aux amants fatigués, et l'amanite panthère qui tue dans la gaieté. La sombre mandragore sous les gibets cueillis, et que plus d'un adore pour sa noire magie, ne sans rien à compter de ce filtre violent, silencieux et damné, mon amour inquiétant. Les subtiles fragrances qui enivrent l'esprit, la fatale vengeance et le cinglant mépris, la lente consomption d'une âme qui s'ennuie, et la main qui corrompt un trop vierge fruit. Hé, le temps, assassin, et les journées perdues, les souvenirs malins qui torturent et qui tuent. Au vous, tous les parfums d'une mort très discrète, vous les obscurs moyens, vous les sombres recettes, n'êtes rien à côté de ce filtre violent.
Aconite, hors piment, douce solennelle, j'arrogne le serpent, morsure d'araignée, cantharide. fiscale, digitale pour prendre de la bonne, stramone, arsenic soufré, cinnabre, cocaïne, Sainte Locuste, belle Lucrèce, rangez vos fioles et venez. Je vous invite à la grand-messe de mes amours empoisonnés.
Belle Lucrèce, rangez vos fioles et venez. Je vous invite à la grand-messe de mes amours empoisonnés. C'était la chanson Poison de Juliette de son album Irrésistible, paru en 1993. Et puisque dans cette chanson, les derniers mots de Juliette font allusion à Lucrèce Borgia, intéressons-nous donc à cette célèbre empoisonneuse en allant faire un tour du côté de Donizetti, qui en 1833 s'inspire de la pièce que Victor Hugo vient de publier en début d'année pour un opéra qui sera créé avec grand succès à la Scala de Milan. C'est que Lucrèce s'y connaît particulièrement bien d'empoison, sa famille en ayant même inventé un, la cantarelle, subtil mélange d'arsenic et de phosphore. Alors la scène qui nous intéresse le plus se situe au second acte de ce magnifique opéra. Un immense banquet réunissant la plupart de ses ennemis au palais Negroni de Ferrare, Lucrèce Borgia ayant fait empoisonner le vin dont aucun convive ne réchappera, pas même son propre fils Gennaro. Juste avant que Lucrèce n'annonce à tous leur mort inéluctable, son ami Orsini lève son verre pour un brindisi héroïque, incontestablement la page la plus célèbre de l'opéra. Un toast fatal à la saveur toute particulière. Nous écoutions la belle voix de la mezzo-soprano Vivica Geno pour ce toast à la mort en forme de valse, un brindisi extrait du second acte de l'opéra Lucrèce Borgia de Donizetti. Mais si le breuvage servi par Orsini lors de ce banquet fatal a provoqué la mort de la quasi-totalité des convives, tel n'est pas le cas de celui qu'avale Juliette dans la célèbre pièce de Shakespeare. Rappelez-vous, Juliette a 14 ans. On s'apprête à la marier avec Paris, or elle est déjà mariée en secret à Roméo. Pour échapper à ce mariage, elle boit un somnifère qui fera croire à sa mort une idée de frère Laurent. Éloigne la nourrice de ta chambre, prends cette fiole et une fois au lit, bois la liqueur qui y est distillée et qui va aussitôt dans tes veines répandre un fluide engourdissant et froid. Son mouvement naturel suspendu, ton pouls s'arrêtera. Ni souffle ni chaleur n'attesteront que tu vis. Dans le ballet qu'écrit Prokofiev en 1935, la monotonie du battement des pizzicato des violons suggère le sommeil qui envahit peu à peu Juliette, qui tente un moment de lutter sans succès contre l'immobilité qui la gagne.
Thank you.
potion de frère Laurent, même si elle n'est pas destinée à tuer, n'en provoquera pas moins la mort successive de Paris, de Roméo et de Juliette. L'enfer, comme toujours, est pavé de bonnes intentions. C'était la célèbre scène de l'endormissement de Juliette, un extrait du ballet Roméo et Juliette de Prokofiev, et c'est André Prévin qui dirigeait le London Symphony Orchestra. Alors dans un genre nettement plus léger, penchons-nous maintenant sur les douteuses décoctions du prétendu docteur Dul Camara, qui dans l'élixir d'amour ameute les habitants d'un petit village italien, tentant de leur vendre toutes sortes de médicaments miraculeux capables, je le cite, de faire marcher les paralytiques, de guérir les apoplectiques, les asthmatiques, les hystériques et les diabétiques. Il a aussi en magasin un simple vin de Bordeaux qu'il vendra très cher à Nemorino comme étant un puissant filtre d'amour censé permettre à celui-ci de gagner le cœur de la belle Adina.
Attenti, non fiatate. Io già suppongo e immagino che alla par di me sappiate che io sono quel gran medico, dottore enciclopedico, chiamato Dul Camara, la cui virtù preclara e i portenti infiniti son noti all'universo e in altri siti. Benefattor degli uomini, riparator dei mali, i pochi giorni sgomberai a spazzo gli spedali, e la salute a vendere per tutto il mondo io va. Compratela, compratela, per pochi ve la do, compratela, compratela, per pochi ve la do, compratela, compratela, per pochi ve la do. E questo l'odontaglico mirabile liquore dei topi e delle chimiche, possente distruttore, i cui certificati o fettici bollati toccar vedere e leggere a ciascheduno però. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, uno settuagenario e paletudinario, donna di 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli fin d'anno diventò, per questo tocco a sola, in breve settimana, io dono afflitta vedo, ma di piangere ci sto. Oh, voi matrone rigide, ringiovanire bramate, le vostre rube incomode, con esso cancellate, volete voi donzelle, bellissima per la pelle, voi giovani calanti, per sempre avere avanti, coprate il mio specifico, per pochi io ve lo do, per pochi io ve lo do, per pochi io ve lo do, do bravi giovinotti, da brave vedovette, coprate il mio specifico, per pochi io ve lo do. E muove i paralitici, spedisce gli apoplettici, gli asmatici, gli asfitici, gli isterici, i diabetici, guarisce i panichidi e sgrofole i rachitidi, e fino il mal di fegato che in moda diventò. Mirabile per cimici, mirabile per fegato, guarisce i paralitici, spedisce gli apoplettici, comprate il mio specifico, voi ve lo vedo un zelle, voi giovani galanti, per pochi io ve lo do. Avanti, avanti, vedove, avanti, avanti, bamboli, comprate il mio specifico, per pochi io ve lo do, sì, per pochi io ve lo do, sì, per pochi io ve lo do, sì, per pochi io ve lo do. L'ho portato per la posta da lontano mille miglia, mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti, per provarvi il mio contento, di sia amico accoglimento, io vi voglio buona gente, uno scudo regalare.
Uno scudo meramente curato, non si può
andare,
non si può
andare,
non si può
andare. Ecco qua! amico Elisire, tutta Europa sa che io vendo niente men di 9 lire. Ma siccome pur palese che io son nato nel paese, per 3 lire a voi lo cedo, sol 3 lire a voi richiedo. Così chiaro è come il sole, che a ciascuno che lo vuole uno scudo bello e netto in saccoccia faccio entrare. Uno scudo bello e netto in saccoccia faccio entrare, in saccoccia faccio entrare.
C'était donc le baryton Rolando Panerai qui nous chantait la cavatine du docteur Doul Camara, un extrait du premier acte de l'élixir d'amour de Gaetano Donizetti. Mais si le breuvage de Doul Camara n'a en réalité aucun effet, tel n'est pas le cas du poison d'État que Socrate est condamné à avaler à l'issue de son procès. Un mélange de suc de grande ciguë associé à du datura et à de l'opium afin d'augmenter les effets toxiques tout en réduisant la souffrance et les spasmes consécutifs à son absorption. C'est Phédon, l'un de ses disciples, qui raconte sobrement dans l'un des dialogues de Platon les derniers jours de Socrate. Sérénité de Socrate face à sa sentence, il boit le poison comme un ultime geste philosophique, préférant mourir que de renier ses idées, ce qu'il croit juste. Ce détachement, cette acceptation de la mort, trouve chez Éric Satie un écho d'une étonnante pureté. Socrate est un collaborateur parfait, très doux et jamais importun, déclare-t-il alors qu'il compose en 1918 Socrate, drame symphonique en 3 parties avec voix. Toute la beauté de cette page singulière tient à sa simplicité, à sa pureté, à son économie de nuances et de timbres. Une récitation vocale simple, sans effet, sans artifice, accompagnée d'un petit ensemble de 13 musiciens, comprenant un quatuor à cordes, 7 instruments à vent, des timbales et une harpe. Phédon raconte la mort de Socrate. Pas de pathos, pas de mélo, la mort est racontée en différé, Socrate meurt par procuration.
Criton fit signe à l'esclave qui se tenait auprès. L'esclave sortit, et après être sorti, quelque temps, il revint avec celui qui devait donner le poison, qu'il portait tout broyé dans une coupe. Aussitôt que Socrate le vit, fort bien, mon ami, lui dit-il, mais que faut-il que je fasse? Car c'est à toi de me l'apprendre. Pas autre chose, lui dit cet homme, que de te promener quand tu auras bu, jusqu'à ce que tu sentes tes jambes apesantir, et alors de te coucher sur ton lit, le poison agira de lui-même. Et en même temps, il lui tendit la coupe. À la coupe à ses lèvres, il a bu avec une tranquillité et une douceur merveilleuse. Jusque-là, nous avions eu presque tous assez de force pour retenir nos larmes. Mais en le voyant boire, et après qu'il eut bu, nous n'en fûmes plus les maîtres. corps, mes larmes s'échappèrent avec tant d'abondance que je me couvris de mon manteau pour pleurer sur moi-même. Car ce n'est pas le malheur de Socrate que je pleurais, mais le mien en songeant quel ami j'allais perdre. Cependant Socrate, qui se promenait, dit qu'il sentait ses jambes s'apesantir, et il se coucha sur le dos comme l'homme l'avait ordonné. En même temps, le même homme qui lui avait donné le poison s'approcha, et après avoir examiné quelque temps ses pieds et ses jambes, il lui serra le pied fortement et lui demanda s'il le sentait. Il dit que non. Il lui serra ensuite les jambes, et portant ses mains plus haut, il nous fit voir que le corps se glaçait et se raidissait. Et le touchant lui-même, il nous dit que dès que le froid gagnerait le cœur, alors Socrate nous quitterait. Alors se découvrant, Socrate dit: Criton, nous devons à Coq, à Esculape. N'oublie pas d'acquitter cette dette. Un peu de temps après, il fit un mouvement convulsif. Alors l'homme le découvrit tout à fait. Ses regards étaient fixes. Criton s'en étant aperçu, lui ferma la bouche et les yeux. Socrates, quelle fut la fin de notre ami? Du plus sage et du plus juste de tous les hommes.
La voix douce comme un nectar du ténor Jean-Paul Fouché-Court nous chantait la mort de Socrate, mise en musique par Éric Satie à la fin de la Première Guerre mondiale, et Bernard Desgroupes dirigeait les musiciens de l'ensemble Erwartung. Alors je ne connais qu'un endroit où le poison ne tue pas, c'est l'enfer, puisqu'on est déjà mort. C'est sans doute ce qui explique que dans le ballet du cinquième acte de l'opéra Faust de Gounod, alors que nous sommes transportés en pleine nuit de Valpurgis dans la montagne du Harz, le royaume de Méphistophélès, Cléopâtre et ses esclaves nubiennes semblent se régaler de coupes de poison qu'elles boivent goulûment les unes après les autres.
Thank you.
Danse des poisons de Cléopâtre et de ses esclaves nubiennes, c'était un extrait du ballet de Faust, le plus célèbre des opéras de Gounod, et toute l'énergie de Leonard Bernstein à la tête de l'Orchestre Philharmonique de New York. Filtre de mort, filtre d'amour, au fond, quelle différence ! C'est ce que semble penser Wagner quand il écrit au milieu du XIXe siècle son Tristan et Isolde, évangile de l'amour occidental liant à jamais Eros à Thanatos. Le moteur de cet opéra mythique n'est-il pas la fameuse substitution au premier acte d'un filtre d'amour à un filtre de mort ? Et cette musique n'agit-elle pas sur nous comme une sorte de filtre sonore, faisant de chaque audition de Tristan plus qu'une expérience musicale, une véritable expérience métaphysique d'une durée de 4 heures, s'achevant par la célèbre mort d'Isolde et ses vagues orchestrales successives qui semblent ne jamais pouvoir s'arrêter.
Thank you.
L'extraordinaire Liebestod, en français Mort d'amour, de Richard Wagner, point culminant et dernière page de l'opéra Tristan et Isolde, dans la sublime interprétation de Birgit Nilsson, une version légendaire dirigée par Karl Böhm en 1966 au Festival de Bayreuth. Ce que nous buvons n'est donc pas à prendre à la légère, chaque breuvage ayant la capacité de modifier nos humeurs, nos pensées, nos sensations et nos émotions. Ainsi pour la chanteuse Juliette, qui depuis le début de notre preuve par Z a eu largement le temps de passer des maléfices du poison aux ivresses de l'alcool, seul ce dernier nous donnerait la force de supporter les difficultés de la vie.
Au fond de ma bouteille, un petit diable veille, pas plus gros qu'une abeille, plus noir qu'une corneille, et sa voix qui zézeille susurre à mon oreille les plus sales conseils déguisés en merveille.
Un petit diable veille au fond de ma bouteille,
me fait impératrice et me donne un royaume de sentiments factices, d'ivresse polychrome. Et pour guider mes pas, j'ai de nobles amis, Lady Margarita et Miss Bloody Mary. Et quand mes courtisans me promettent le ciel, je les crois vraiment quand ils disent que je suis belle.
Mais ce ne sont que des ombres, et mon royaume sombre dans un méchant sommeil au fond de ma bouteille.
Je connais que trop le nom des assassins, Seigneur de Curaçao et Monsieur Marasquin. Et quand mes courtisans me brûlent à petit feu, je les crois encore quand ils disent que j'ai vu mieux. Mais le miroir se brise et je vois sans surprise une petite vieille au fond de ma bouteille. Diable goguenard, un Satan dérisoire qui enfonce au hasard les clous du désespoir.
Un petit diable veille au fond de ma bouteille.
Au diable ce bavard et ses belles histoires. Au diable ses merveilles et ses mauvais conseils.
Un petit diable veille au fond de ma bouteille.
Comme si j'allais croire ce que ce diable noir susurre à mon oreille. De sa voix qui
Et un autre avantage de finir ces bouteilles, c'est que ça permet d'en faire un instrument de musique que les percussionnistes nomment parfois « bouteillophone ». C'était donc « Le diable est dans la bouteille », une chanson de Juliette tirée de son album « Nour ». Alors c'est en 1843 que Mendelssohn écrit sa célébrissime « Marche nuptiale » au son de laquelle des millions de couples se marient encore chaque année. S'ils savaient. c'est que cette marche fait partie d'une musique de scène pour le songe d'une nuit d'été de Shakespeare, à une époque où quand on allait au théâtre, il y avait presque autant de musique à entendre que de paroles à comprendre. Les musiciens et les chœurs étaient placés sur scène, en coulisses ou dans la fosse, et en dehors du plaisir d'écouter de la belle musique, celle-ci permettait également de masquer les différents changements de décor et de bougies. Quant à notre fameuse marche nuptiale, figurez-vous qu'elle célèbre dans le songe d'une nuit d'été une bien étrange union entre d'un côté la ravissante Titania, reine des fées de son état, et de l'autre le peu gracieux Bottom, un tisserand déguisé en âne. Tout ça à cause de Puck, le lutin malicieux, qui a administré à Titania un filtre d'amour, la rendant amoureuse de la première personne qu'elle verra en se réveillant. L'ancêtre du GHB en quelque sorte.
Thank you.
Alors pour ceux qui viennent de prendre l'émission en cours de route, je suis sûr que vous aurez reconnu la célèbre marche nuptiale tirée du Songe d'une nuit d'été de Félix Mendelssohn. Et quoi de mieux pour Mendelssohn que l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig, sa ville natale, ici placé sous la direction de Ricardo Chailly. Une dernière chanson pour terminer cette preuve par Z, aussi vénéneuse que parfumée. Je pense par exemple à Boris Vian, qui après avoir imaginé le célèbre pianoctail de l'écume des jours, écrivit quelques années plus tard la chanson « Je bois ». Je bois sans y prendre plaisir, pour être saoul, pour ne plus voir ma gueule. Mais si l'alcool réchauffe, réjouit, nous rassure et nous entoure, il peut aussi devenir un poison, pour le corps comme pour l'esprit.
Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois n'importe quel jaja, pourvu qu'il ait ses 12 degrés 5. Je bois la pire des vinasses, c'est dégueulasse, mais ça fait passer le temps. La vie est-elle tellement marrante? La vie est-elle tellement vivante? Je pose ces deux questions. La vie vaut-elle d'être vécue? L'amour vaut-il qu'on soit cocu? Je pose ces deux questions auxquelles personne ne répond. Et je bois systématiquement pour oublier le prochain jour du terme. Je bois systématiquement pour oublier que je n'ai plus 20 ans. Je bois dès que j'ai des loisirs pour être sous, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir. Que j'ai des loisirs pour être saoul, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir.
C'était « Je bois », l'une des chansons les plus célèbres de Boris Vian, écrite en 1955, des paroles ponctuées par un délicieux chaloupement jazzy signé Alain Goraguer. La chanson sera reprise 10 ans plus tard par Serge Reggiani, mais j'ai préféré qu'on l'entende chanter par Boris Vian lui-même. Vian n'était pas vraiment chanteur, et on sait qu'il n'a jamais été très à l'aise sur scène. Mais tout de même, c'est Boris qu'on vient d'entendre, et moi, ça me fait quelque chose. C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec Théo Friconeau, chef opérateur du son Jean-Michel Bernot. Je vous rappelle que contrairement à l'alcool et au filtre d'amour, cette émission peut être réécoutée sans modération ni effet secondaire sur le site de France Inter, et je vous dis à la semaine prochaine.